Chers fidèles auditeurs de Radio Courtoisie, heureux de vous retrouver. J'ai choisi de vous offrir une émission en relation avec l'actualité, puisque ce thème fait l'objet de débats récents au Parlement et sans nul doute cela va se poursuivre. En effet, le thème de cette émission est le suivant. Hors toute tutelle, l'école doit rester le libre lieu de la transmission du savoir. Et pour traiter d'un tel sujet, au micro de Radio Courtoisie, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir dans ce studio Anne Coffinier, normalienne et énarque, fondatrice de la Fondation pour l'école, fondatrice de la Fondation Kairos et présidente de Créer son école. Et puis également, mais c'est un familier de Radio Courtoisie puisqu'il est également patron d'émission à Radio Courtoisie, j'accueille Jean-René Ladmiral, docteur en philosophie et écrivain, professeur émérite en philosophie et en philologie. Voici donc le menu de cette émission. Et puis bien évidemment, cette émission commencera comme à l'accoutumée par mon invité permanent. Vous le connaissez, il s'appelle Jean de La Fontaine. Et il nous offre aujourd'hui une fable qui est la fable 5 du livre 9 et qui s'intitule « L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin ». Et je vous en donne lecture. Certains enfants qui sentaient son collège, doublement sot et doublement fripon, par le jeune âge et par le privilège qu'ont les pédants de gâter la raison, chez un voisin dérobaient, se dit-on, et fleurs et fruits. Ce voisin, en automne, des plus beaux dons que nous offre Pomone, avait la fleur, les autres le rebut. Chaque saison apportait son tribut, car au printemps, il jouissait encore des plus beaux dons que nous présente Flore. Un jour, dans son jardin, il vit notre écolier qui, grimpant sans égard sur un arbre fruitier, gâtait jusqu'au bouton douce et frêle espérance, avant-coureur des biens que promet l'abondance. Même il ébranchait l'arbre et fit tant à la fin que le possesseur du jardin envoya faire plainte au maître de la classe. Celui-ci vint, suivi d'un cortège d'enfants. Voilà le verger plein de gens pires que le premier. Le pédant de sa grâce accrut le mal en amenant cette jeunesse mal instruite. Le tout à ce qu'il dit pour faire un châtiment qui pût servir d'exemple et dont toute sa suite se souvint à jamais comme d'une leçon. Là-dessus, il cita Virgile et Cicéron, avec force trait de science. Son discours dura tant que la maudite engeance eut le temps de gâter en 100 lieues le jardin. Je hais les pièces d'éloquence hors de leur place et qui n'ont point de fin, et je ne sais bête au monde pire que l'écolier si ce n'est le pédant. Le meilleur de ces deux, pour voisin à vrai dire, ne me plairait aucunement. Voici, merci Jean de La Fontaine, femme un petit peu difficile, mais enfin intéressante et pleine de promesses. Et c'est une façon peut-être d'aborder le sujet qui nous occupe aujourd'hui, dont je rappelle le thème. Hors toute tutelle, l'école doit rester le libre lieu de la transmission du savoir. Alors avant de passer la parole, courtoisie oblige, à Anne Coffinier, je voudrais apporter deux éléments à titre personnel, en ma qualité de président du Cercle Renaissance, à savoir d'une part que va revenir prochainement sur le débat sur ce qu'on appelle d'une façon erronée l'aide à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie, soyons clairs. Eh bien, voilà, il faut surtout tenir bon, féliciter nos amis sénateurs d'avoir jeté, au micro de Radio Courtoisie, c'est scandaleux, d'avoir rejeté cette proposition qui avait reçu la majorité à l'Assemblée nationale, mais ça va revenir à l'Assemblée nationale. Et il faut tenir bon. Le deuxième donc sujet d'actualité, puisque ceci revient en débat dans une quinzaine de jours. Et autre sujet d'actualité qui concerne Notre-Dame de Paris, je dois dire que je suis scandalisé par le fait que, sur un mot du président de la République, on ne veut pas remettre en place les vitraux
Viollet-le-Duc
pour mettre à la place des vitraux modernes. Alors je pose la question suivante. Si Notre-Dame de Paris n'avait pas brûlé, aurait-on retiré ces vitraux de Viollet-le-Duc qu'on a pu sauver, qui sont absolument intacts? Est-ce qu'on aurait retiré ces vitraux pour les remplacer par ces vitraux modernes d'un goût
À l'arrière-plan donc de ces nouveaux vitraux, il y a toute une philosophie satanique qui est
sous-jacente,
mais qui va bien dans le sens de plusieurs choses depuis quelque temps dans la France qu'elle est gouvernée.
Oui, ça correspond effectivement à l'état d'esprit.
On a vu ça notamment aux Jeux Olympiques.
En tous les cas, défendons surtout la remise en place des vitraux de Viollet-le-Duc, comme le demandent d'ailleurs la plupart des associations de défense du patrimoine ou de défense de l'esthétique. Et je me tourne maintenant vers notre chère Anne Coffinier. Première question, que pensez-vous de La Fontaine?
Alors, je pense que La Fontaine, et c'est pas très original, est vraiment la base de du rapport gourmand à la langue française que peut entretenir un enfant dès la fin de la maternelle, on va dire dès le CP. Et il est de tradition de faire apprendre aux écoliers des fables. C'est souvent difficile au début, mais après, lorsque les enfants arrivent à dépasser cette difficulté, ils prennent goût. Et ça devient un patrimoine intérieur qu'ils emmènent en voyage, comme une sorte de bagage tout à fait intégré à leur tissu même, à leurs fibres, tout au long de leur vie. C'est pour ça que c'est un grand trésor que d'ailleurs d'autres peuples nous envient, parce que c'est très bien vu, ça couvre tous les champs de la vie, y compris d'ailleurs avec des thèses un peu surprenantes, comme cette fable pas très connue que vous nous avez lue, qui finalement est d'une morale assez troublante, hein, pas très favorable à la propriété, où finalement on a un maître qui a l'air d'encanailler la totalité de ses élèves en allant saccager le champ d'un voisin qui, fût-il pédant, était quand même dans son bon droit. Donc là, on est quand même assez surpris par le contenu. Mais en général, c'est beaucoup plus rural, c'est du bon sens, beaucoup plus directement utilisable. Et là aussi, les rimes sont surprenantes. Il y a plusieurs rimes un peu déséquilibrées.
Oui.
C'est très, très étrange, cette fable-là. Je la trouve très disparate.
Très singulière.
Très singulière, oui. Oui,
mais de nombreuses fables de la Fontaine ne sont pas du tout connues.
C'est vrai.
Il y a plus de 200 fables. Et,
Alors ça me fait penser à une histoire de ma famille, parce que j'avais une mère qui allait chaparder comme ça dans un verger. Et le propriétaire du verger lui avait tiré dessus au gros sel, comme on faisait à l'époque. Et alors, elle a gardé des souvenirs cuisants pendant des mois. Ça fait très mal. Voilà, donc peut-être que s'il avait lu la fable en question, il n'aurait pas été si dur.
Alors, j'ai sous les yeux, chère Anne Coffinier, j'ai sous les yeux le Figaro de vendredi dernier qui évoque la proposition de loi Bétaram qui faisait craindre une mise sous tutelle de l'enseignement privé. C'est donc le sujet qui a été débattu au Parlement et il y a eu des discussions ardues et il faut d'ailleurs féliciter un certain nombre de parlementaires qui ont essayé de rectifier le tir par rapport à cette proposition de loi et en particulier... Xavier Breton, Perrine Goulet, Roger Chudeau, le député Trébuchet. Voilà. Et en particulier, cette proposition de loi initiale entendait également lever le secret de la confession. L'Église de France a quand même réagi. Pour une fois qu'elle réagit, ne nous
en prenions
pas.
Ça risque de revenir au Sénat. Il ne faut pas créer victoire trop tôt.
Voilà, oui, absolument.
Parce que le texte est depuis le 2 juin au Sénat. Et donc, le Sénat cherchera certainement à faire quelques modifications. Donc, il y a l'urgence qui est mise sur le texte. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire des navettes. Ensuite, ça passe en CMP, en commission mixte paritaire, si jamais ils ne sont pas arrivés à obtenir gain de cause avec un texte identique. Enfin, toujours est-il que vous savez, le problème, c'est que lorsqu'il y a des mauvaises idées comme ça, c'est testé dans une première proposition de loi. C'est éventuellement repoussé. Puis ça revient par une autre proposition de loi. Et ça revient. Et l'idée fait son chemin. Et les défenses immunitaires contre des aberrations anticonstitutionnelles comme celle-ci descendent progressivement au sein des élus de la nation qui, au premier passage, déchirent leur habit et se mettent de la cendre sur la tête.
Bien sûr.
Et au deuxième passage, bon, en fait, ils ne sont pas là, ils sont à la buvette, etc. Puis au troisième passage, ça passe. Et c'est le problème avec l'opposition auquel on a à faire face sur des sujets très idéologiques comme ceci, que ce soit l'euthanasie, enfin tous ces sujets-là, c'est que c'est un véritable système de bulldozer. C'est-à-dire que c'est une première fois, ça passe pas, ça revient.
On le remet sur le tapis.
Un cavalier législatif et on repasse une proposition de loi, puis après c'est un projet de loi et ça revient. C'est pour ça qu'il faut être déterminé, il faut savoir pourquoi on fait ce combat et être organisé et sur le temps long. C'est sur 10-15 ans qu'il faut être organisé, c'est pas un soir.
Tout à fait. Et vous avez ô combien raison. Je dois dire qu'on a le sentiment que les parlementaires n'ont pas pris la mesure du fait des conséquences dans le temps de la décision du jour. Et ça, c'est quand même gravissime, je crois. Moi-même, j'ai siégé au Parlement et je dois dire que j'ai eu toujours cette préoccupation effectivement... Lorsqu'on voit d'ailleurs les soi-disant les garde-fous qui sont mis en avant par les élateurs de telle ou telle proposition de loi en disant « mais il n'y a pas de problème », on voit que dans le temps, les garde-fous s'effondrent. Il en était ainsi pour tout ce qui se rapporte à l'avortement, à la cessation volontaire de grossesse et à d'autres sujets également.
Plus largement, il y a le principe des effets cliqués dans toutes ces lois sociétales, c'est-à-dire qu'on donne une position à titre dérogatoire très encadrée, puis ensuite c'est un peu moins encadré, puis ensuite c'est plus dérogatoire, ça devient la norme, et puis après, le coup d'après, on pénalise ceux qui essaient de lutter contre ça. Oui. Et c'est eux qui se retrouvent inversement, accusés, alors que jadis, en fait, c'est le contraire. Donc on arrive à inverser en l'équivalent de 30 ans, intégralement une position, le bien passe au mal et vice-versa.
Alors là, d'ailleurs, je dirais que le fait même que dans sa rédaction initiale, cette proposition de loi envisageait de lever le secret de la confession, on rentre là vraiment dans un domaine très particulier. Cela me rappelle quand même la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui disait « La République, c'est le droit au sacrilège ». c'est le droit au sacrilège. On a vu ce que ça a coûté, ça a coûté la vie, ça a coûté l'assassinat de Samuel Paty.
Oui, oui. Et pas seulement lui.
Et pas seulement lui. Hein. Le droit, la République, c'est le droit au sacrilège. C'est ahurissant, c'est ahurissant.
Et sur la confession, c'est totalement absurde, parce que qui va vérifier qu'un coupable se confesse ?
Bien sûr.
Est-ce que le prêtre va trahir le secret ? C'est purement de l'hystérie idéologique, parce que ça ne peut pas avoir de suite.
Bien sûr.
Ça ne peut pas avoir de suite, ça n'a pas d'objet.
Bien sûr. Hein,
puisque Alors,
Anne-Coffigné.
En fait, ce qui est frappant comme manière de procéder, si on prend juste un petit peu de recul sur la manière dont ça fonctionne au Parlement, c'est qu'on a un sujet d'urgence nationale, qui est celui de la protection des mineurs. Et c'est un vrai sujet d'urgence nationale, car en France, les enfants ne sont pas assez au cœur de nos préoccupations
à
tout niveau, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour le secteur périscolaire, que ce soit pour les enfants de l'ASE, donc l'ancienne DAS, que ce soit pour la protection contre la pornographie, que ce soit sur la question des écrans, que ce soit sur, d'une manière générale, la débilitation, j'ai envie de dire, de la société qui fait que ça ne concourt pas à un contexte éducatif positif pour les enfants. On voit bien que les enfants sont une variable d'ajustement et que, ma foi, notre société s'en préoccupe pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose de flagrant. Pour autant, le sujet là, de la lutte contre les violences scolaires et puis la pédocriminalité est un sujet qui s'est imposé dans l'agenda politique, encore une fois, heureusement. Et comme c'est un sujet majeur, pour les hommes politiques, il est important de se classer du bon côté du manche, ou du bon côté de l'histoire. Et donc, quand le sujet comme ça prend une telle sensibilité, on n'est plus dans l'idée de savoir si telle ou telle disposition est opportune ou finalement peut se révéler redoutablement contre-indiquée quand on va dans le détail des choses. Ça n'a plus du tout d'importance. La seule chose qui compte pour eux, c'est de se positionner politiquement et de dire « Ah, mais moi, j'ai voté la loi de protection des mineurs. » Et c'est là. Et donc, les idéologues le savent pertinemment. Donc, quand ils tiennent une de ces lois comme ça, qui est tellement importante, qui a tellement de visibilité symbolique, que les gens veulent absolument se mettre de côté du manche, c'est à ce moment-là qu'ils rentrent toute une série de dispositions qui, elles, sont purement idéologiques et qui correspondent à des vieilles guerres qui n'ont en général aucun rapport avec l'affaire. Si vous prenez la question du secret de la confession, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Aucun.
Okay.
Mais c'est glissé là-dedans. Mmh. Et puis derrière, il y a toute une série de vieilles guerres scolaires qui renaissent. Contre l'enseignement privé, avec toute une série de dispositions, d'ailleurs parfaitement inapplicables. Hein, parce que
les attaques contre les écoles catholiques en particulier.
Bien sûr, parce que de toute manière, il faut bien reconnaître que dans le sous-contrat, c'est l'écrasante majorité. Et ensuite, ils ne risquent pas, pour leur alliance de gauche, aller attaquer les écoles musulmanes. Donc ça, ils s'en garderaient bien, parce qu'il y en a aussi de moins en moins, mais qui sont sous contrat. Et quant aux écoles juives, pareil, ils essaient d'éviter. Donc finalement, ils concentrent leur tir sur les écoles catholiques. Et puis de toute manière, c'est là qu'il y a le plus de consensus pour taper dur, hein, si j'ose dire. Donc voilà, il faut bien voir ce mécanisme. On met en avant un sujet qui est un sujet politiquement absolument consensuel, sur lequel on ne peut même plus réfléchir. C'est bien sûr qu'il faut agir, bien sûr qu'il faut voter le texte. C'est comme ça qu'on a eu un vote unanime. Alors que, souvenez-vous bien de la circonstance politique actuelle, personne n'est d'accord sur rien. On n'arrive à rien voter.
Absolument.
Et là, on a eu un vote unanime.
C'est très mauvais signe. À chaque fois qu'il y a eu des votes de ce type-là, le résultat était catastrophique.
Et à l'intérieur, il y a toute une série de dispositions qui n'auraient jamais dû être acceptées. Donc en fait, c'est parce qu'il devient politiquement impossible de se positionner contre une loi comme ça. Et je veux attirer l'attention des auditeurs sur le fait qu'à l'heure où je vous parle, en réalité, dans ce même domaine, il y a tout simplement 4 propositions de loi et 1 projet de loi sur le même sujet.
Oui.
Donc, en fait, tout ça va se percuter, il va y avoir des problèmes de coordination de loi, on ne sait pas trop ce qui va en ressortir, ça va probablement créer une complexité encore plus forte. Alors, bien sûr, c'est très important de prendre la mesure de ce qui se passe, mais là, on voit bien que chacun y va à son égo. Madame Spielboots, qui finalement a été un peu mise sur la touche pendant la commission d'enquête, ou Paul Vanier, elle est fille,
elle-même,
à tout prix,
oui.
Madame Spielboots, là, c'est sa loi. Et on voit bien que c'est son moment historique.
Oui.
Donc, elle veut sa loi. Et puis, à côté de ça, le gouvernement ne pouvait pas ne rien faire. Donc, il lui fait un projet de loi gouvernementale, notamment sur la réforme de l'ASE. Et il était temps d'y songer. et toute une série de réformes. Et puis, au même moment...
Mais pouvez-vous quand même préciser pour nos auditeurs de Radio Courtoisie cette mise sous tutelle, cette mise sous le boisseau, de quoi s'agit-il ?
Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites, dont la principale a été repoussée pour l'instant. Mais on voit bien l'idée générale. Depuis la loi Debré, donc en 1959, au titre de cette liberté d'enseignement qui est une valeur constitutionnelle, eh bien, l'État peut passer un contrat avec des écoles privées de manière à leur donner des moyens d'accueillir les enfants à peu près dans le même type de conditions que les écoles publiques, moyennant une série d'obligations.
De contrôle.
Et d'obligations. C'est-à-dire qu'il faut respecter les programmes, il faut respecter la liberté de conscience, il faut prendre tous les enfants de quelque origine qu'ils soient, etc., etc. Et être soumis à des inspections. Et par contre, de l'autre côté, eh bien, les écoles ont droit à faire respecter leur caractère propre, qui n'a jamais été défini, mais on voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce qui fait leur spécificité, aussi bien spirituelle, éducative, d'organisation. Merci. Et voilà. Donc, ça, c'est l'équilibre de 1959. Et bien sûr que l'idée, c'était pas... Dans cette logique-là, et ça c'est très important de le voir pour ceux qui aiment le droit, on n'est pas du tout dans une situation de délégation de service public. Ce n'est pas l'État qui dit voilà le cahier des charges, et vous, nous avons choisi parce que vous savez répondre à ce cahier des charges, et donc vous allez remplir ce cahier des charges, et vous restez en charge une certaine durée, pour autant que vous remplissez correctement ce cahier des charges. Ce n'est pas du tout cette situation-là. Ouais. C'est une situation où, de droit, historiquement d'ailleurs, parce que les écoles catholiques en particulier existaient bien avant les écoles publiques, donc, les écoles existent, il est de droit constitutionnellement qu'il y ait une telle diversité, une telle liberté d'enseignement, et parce qu'il est de droit qu'il existe une telle liberté, alors l'État la respecte, la garantit, et comme il avait besoin, dans le contexte du baby-boom, de scolariser un certain nombre de gens, alors il a dit « je vous finance pour que vous scolarisiez les enfants que nous ne sommes pas capables de scolariser ». Mais en aucun cas, c'est une délégation de service public. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important de le garder à l'esprit. Pourquoi c'est important ? Parce que dans le cadre de la proposition de loi Spielboot, Madame Spielboot et les autres personnes qui ont déposé cette loi ont considéré qu'il était temps de transformer le contrat d'association en une sorte de contrat à durée limitée, un peu comme si on CDDisait, si j'ose dire, le contrat d'association. Donc là, il rentre dans une logique d'appel d'offres, une logique de marché public, en quelque sorte. On vous dit, voilà le cahier des charges. Vous devez remplir le programme, vous devez assurer la sécurité des enfants, vous devez mener au respect du socle commun de connaissances et de culture, etc. Et donc, on vous a sélectionné et on vous garde pour autant que vous faites le travail selon des termes qui nous paraissent convenables. Et voyez bien que là, on change complètement de logique, puisque là, on passerait effectivement à une logique de délégation de service public, où finalement l'Église est priée de rentrer dans le cahier des charges laïques unique. Et donc, c'est une certaine manière, une manière de faire la loi Savary indirectement, c'est-à-dire de recréer un service public universel global d'éducation
et de perdre la spécificité de l'enseignement
et de perdre la spécificité qui, encore une fois, attention, n'est pas que religieuse. L'enseignement catholique est varié selon les congrégations, selon les implantations. Il n'y a rien en commun avec les frères Quatre-Bras, les oratoriens, les eudistes. Bien tout sûr. Ça, ce sont des approches très différentes. Et donc, évidemment, toutes ces subtilités de vision, de modèle éducatif, etc., seraient balayées littéralement par un cahier des charges qui leur dirait « Écoutez, nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez exactement comme l'éducation nationale. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Vous n'avez qu'à le faire le soir quand tout le monde est crevé et qu'il n'y a plus personne. Et là, vous pouvez faire une petite heure de catéchisme facultatif si vous avez envie. » Donc, c'est pour ça que ce combat est majeur, parce que c'est la conception même de ce que sont nos droits à la liberté d'enseignement qui est en jeu. Et donc là, ça a été repoussé, mais le simple fait qu'ils aient osé faire une chose pareille en dit long. Et en réalité, ils appliquent ce qu'on appelait le programme de Vincennes, qui avait été adopté en 1960. Et c'était une sorte de serment où toute la gauche, les syndicats, etc., avaient dit que jamais ça serait la lutte. Ils continueraient la lutte jusqu'à ce que la loi de Debré s'effondre, jusqu'à ce que le contrat soit aboli. Et donc c'est ce qu'ils essaient, loi après loi, de faire. Constamment. Il ne faut pas se tromper de combat. Souvent, une certaine droite dit « Ah non, mais on ne voudrait pas être accusé de relancer la guerre scolaire, vous comprenez ?» Mais c'est une blague. La guerre scolaire, elle est là depuis 1960. Elle est permanente. Donc soit on nie la guerre pour pouvoir vivre veulement dans la paix, soit on dit, ben oui, il y a une guerre, très bien, ben, faisons la guerre qui s'impose tranquillement, parce que nous le devons à nos enfants.
Mais est-ce que également, ce n'est pas paradoxalement une bagarre contre l'excellence de l'enseignement? Et je pense évidemment au collège Stanislas, je pense à bien d'autres collèges, et d'une façon majoritaire, on voit que ces enseignants de gauche, généralement, essayent de mettre leurs enfants, si possible, dans des écoles privées sous contrat, qui ont une certaine réputation. Est-ce qu'il n'y a pas également une espèce de, comment dire, d'attaque contre le fait que majoritairement, c'est cet enseignement libre, qu'il soit sous contrat ou hors contrat d'ailleurs, est largement reconnu comme étant susceptible de mieux encadrer les enfants que l'école publique.
Alors, je dirais quelques mots, mais après je pense que Jean-René Ladmiral aura peut-être plus de choses à dire sur le fond de ce type de combat idéologique qui est vieux comme le monde. Hein. C'est un combat pour l'égalitarisme et contre toute
voilà,
forme d'excellence.
C'est la mise au pas de la société. Mise au pas laïciste de gauche de la société. Et effectivement, comme vous dites, une certaine excellence plus ou moins grande de l'école privée. Vous avez mentionné des
Stanislas ou d'autres.
Mais même les écoles. Moi, je vois ma crémière, elle met ses enfants à l'école primaire du quartier qui n'est pas l'école publique. Mmh. C'est-à-dire que les gens évitent l'école publique. Et alors, il y a les lobbies enseignants, syndicalistes, ont peur de ça.
Je vois d'ailleurs que François Hollande a commencé ses études, si je ne me trompe, chez les frères de. Les frères à Rouen. Chez les frères des écoles chrétiennes, absolument.
Mais tous, hein, tous, et ça rappelle la Révolution française, où tous ceux qui ont persécuté l'Église d'une façon féroce,
à Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Rouen,
étaient eux-mêmes produits de l'institution qu'ils s'acharnaient à détruire.
Absolument.
Et alors, il y a à la fois un refus de l'excellence, oui. C'est l'égalitarisme, la philosophie égalitaire, mais c'est aussi le lobby. Si on crée un système parallèle où ça se passe bien, alors notre école nulle, elle va perdre. Et si on a des termes de comparaison, et à court terme, enfin plus ou moins long terme, l'école publique est condamnée.
Ah oui.
Et significativement, moi je suis un produit de l'école publique. Et ma mère était institutrice publique, comme je disais, comme les filles du même nom.
À tout péché miséricorde.
Pardon ?
À tout péché miséricorde.
Oui. Mais nous avons connu une école publique où on apprenait encore quelque chose. Alors il y avait de l'idéologie, etc. Mais c'était quand même pas mal. Alors que visiblement, actuellement, il y a un effondrement du niveau, un effondrement de l'esprit. Alors, je parle de façon globale et Anne Coffinier serait beaucoup plus précise et virulente certainement que je ne le dis. Alors, il reste quelques lycées, quelques écoles où quelque chose se survit, où en tout cas on peut en entretenir l'illusion. Et moi je suis d'un milieu d'enseignants, alors il y a une sorte d'a priori pour l'éducation nationale.
Mais, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat. Et peut-être révéler des choses que je ne devrais pas révéler. Vous avez commencé à être tout à fait à gauche. Et dans le même temps, si je ne me trompe, cette chère Anne Coffinier est inscrite comme étant anarchiste de droite. Alors j'aimerais cette conjonction dans le micro, dans le studio de Radio Courtoisie, cette conjonction d'un professeur d'université plutôt aujourd'hui, libéral-conservateur.
Oui, enfin national-conservateur.
National, mais venant de la gauche, et Anne Coffinier qui revendique son anarchisme de droite.
Mais elle a été plutôt consciente que je ne l'étais. Moi, j'étais influençable, puis là, j'étais dans une constellation où tout mon environnement à l'université était de gauche.
Oui.
Et alors, il y a le fameux...
dans un milieu familial d'enseignants.
Oui, mais enfin, ma mère était raisonnable.
Oui.
Enfin, mon père était, que je n'ai pas connu, était militant trotskiste, il était un colonel des brigades internationales en Espagne, enfin bref.
D'accord.
Mais il n'y avait pas d'osmose à ce niveau-là. Mais dans le milieu, et tous étaient de gauche. En 68, tous faisaient la révolution. Et alors moi, je pensais, j'étais mal à l'aise, et puis je pensais à ce fameux proverbe, quand tout le monde a tort, c'est que tout le monde a raison. Eh ben non, maintenant je dis, si tout le monde est d'un avis différent de moi, c'est que c'est tous des cons et c'est moi qui ai raison. Mais c'est difficile à vivre, il faut reconnaître, et à entendre. Et alors, c'est au fur et à mesure qu'on finit par prendre de la distance par rapport à ses erreurs. Et moi, ce qui m'a aidé à passer de l'autre côté, c'est quand c'est une anecdote, nous étions sur la plage de Grimaud. Avant qu'il y ait Port Grimaud, il y avait encore les Ajoncs, les Flamants Roses.
Oui.
Et c'était une époque où on cherchait un peu de musique dans un transistor pour flirtouiller. Enfin bon. Et à ce moment-là, il y en a toujours un qui voulait les infos. Et j'entends la phrase « vive le Québec libre
». Oui.
Mais c'est là qu'il faut être. Et c'est ça qui a fait mon
basculement. Mon ami Philippe Rossillon qui avait soufflé cette phrase au général de Gaulle.
Pardon ?
C'était mon ami Philippe Rossillon.
Ben oui.
Qui avait soufflé cette phrase au général de Gaulle.
Et en 68, j'ai fait une rechute, parce que tout le monde était là-dedans. Et c'est difficile d'être contre son milieu, sauf quand on a une armature intellectuelle et une certaine courage commune, cofinier, et heureusement
si
quelques
autres. Si on revient
autres.
directement aux questions d'enseignement, parce que si on commence à faire l'archéologie des errances idéologiques de notre pays.
J'ai répondu à une sollicitation de Michel de Rostolan pour égayer un peu les choses, parce que votre intervention était formidable, précise, convaincante, avec derrière une compétence que je n'ai pas, et il m'a semblé d'introduire un petit peu de fantaisie.
De fantaisie, vous avez raison, moi c'est pas la fantaisie. Non mais la situation est si dramatique, je dois dire que j'ai envie que ça change vite, quoi. Si on prend le cas de Stanislas, il faut savoir que cette année, ils ont eu 15 inspections différentes.
C'est effrayant.
15.
C'était inimaginable.
Ils ont eu toutes les inspections possibles.
Alors que les résultats aux examens sont extraordinaires.
Et ils ont eu gain de cause, finalement, pour le financement de la ville de Paris, qui a été condamné à leur payer.
Oui.
Mais il a fallu qu'ils réclament leurs droits, si vous voulez.
Absolument.
Et c'est aussi intéressant de voir que dans le cadre du bras de fer qui existe aujourd'hui entre l'école publique et l'école privée, ça c'est un sujet sur lequel je voudrais revenir, eh bien on demande à des établissements, comme par exemple Saint-Jean-de-Passy ou autre, de rendre des classes, de rendre des moyens, alors que les classes sont pleines et qu'il y a des listes d'attente. Ça aussi, je pense que c'est très important que nos auditeurs le comprennent. En France, théoriquement, il n'y a pas d'organisation précise de la manière dont la répartition des moyens se fait entre le public et le privé. Mais il y a une pratique qui s'est instaurée depuis 1984, qui est celle du 80-20. 80% des moyens sont octroyés au public et 20% au privé. Ça veut dire que si on ferme des classes, comme c'est le cas actuellement, si on ferme 100 classes, il faut en fermer 20 dans le privé. Même si vous avez à peu près 65% des gens qui voudraient aller dans le privé. Parce qu'en fait, ce n'est pas une politique de l'offre, ce n'est pas une politique de la demande. C'est-à-dire que la demande des parents n'a aucune importance dans le système français. C'est une politique de l'offre. C'est-à-dire que c'est l'État qui dit, vous allez aller dans l'école publique. Non, il n'y a pas de place pour vous dans l'école privée. Désolé pour vous, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de pénurie organisée. Et l'État organise la capacité des citoyens à aller ou pas dans l'école de leur choix. Et donc, c'est un scandale démocratique majeur.
Oui, c'est une mise au pas idéologique de la société.
Oui, puis c'est une sorte d'endiguement. Et comme par hasard, y a des élites, à commencer par les élites de gauche, qui mettent leur enfant dans le privé, bien sûr, ça va sans dire, et qui n'ont aucune envie d'ouvrir le jeu, et donc qui maintiennent une sorte de diktat pour tous les autres. Donc les autres sont supposés aller dans l'école publique. Ceux qui ont la chance, puis ils sont dans le bon quartier, ils ont les bons passe-droits, ils peuvent aller à l'école privée sous contrat. Et puis ceux de l'école publique, tant pis, le niveau s'effondre, ça devient une sorte de garderie qui ne marche plus puisqu'on n'est même plus en sécurité dans ce type d'école. Et tout ça s'effondre et ils restent dans une totale bonne conscience en disant ce qui importe, c'est que le service public gratuit laïque obligatoire persiste pour les autres, n'est-ce pas ? Mais pas pour leurs enfants.
Et c'est non seulement l'idéologie égalitaire, non seulement la mise en cause de l'excellence, mais c'est aussi avoir, en ayant une masse d'élèves non instruits, garder pour leurs enfants les places qu'il y aura.
Et ça, c'est très important.
Il y avait avant la méritocratie républicaine, etc. Maintenant, non, c'est fils de, fille de.
Oui, et alors il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. Parce que je suis bien d'accord avec vous, en réalité, ce qui s'est passé, c'est très étonnant. Avant, quelque part, les bourgeois acceptaient la concurrence. Ils acceptaient qu'il y ait une méritocratie républicaine et que chacun soit à égalité dans cette saine concurrence pour faire émerger des élites. Donc, on avait des enfants d'ouvriers ou autres qui passaient certificat d'études, qui s'élevaient dans les études, qui avaient des bourses et qui, finalement, faisaient leur chemin. Aujourd'hui, il y a une conscience, j'ai envie de dire, chez les bourgeois, d'un déclassement de leurs propres enfants. D'abord parce qu'ils ne s'en occupent plus autant. Les écoles ne sont pas aussi bonnes. La société, de manière générale, ne développe pas autant le sens de l'effort, la culture, la maîtrise de la langue, etc. Donc, ils savent que leurs enfants sont moins bons. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent les protéger de la concurrence. Parce que leurs enfants, comme on dit dans les films de Vox, ils n'ont pas faim. Vous savez, la faim de se battre, la faim, l'envie de s'en sortir. Ils n'ont pas faim parce qu'il y a papa et maman qui, de toute manière, aideront. Alors qu'il y en a d'autres, parfois issus de l'immigration, issus des quartiers simples et populaires, ils savent que s'ils ne s'en sortent pas par l'école, ils ne s'en sortiront pas du tout.
Absolument.
Donc, il y en a qui ont faim. Il y en a qui poussent au portillon. Et en fait, bizarrement, c'est la gauche qui maintient une sorte de rente de situation des fils de bourgeois qui sont plus haut niveau.
Et alors c'est là où vos initiatives sont interviennent.
Les classes CAMIF, c'est-à-dire d'abord les bourgeois de l'enseignement.
Oui. C'est ça.
Moi c'est mon milieu.
Avant tout.
C'est le vôtre aussi sans doute quand
non.
même. Bon, moi c'est le mien. Et donc je peux difficilement parler avec mes collègues parce que souvent c'est pas entendu et soit je dévalorise ma parole, ce qui n'est pas trop grave, mais enfin quand même. Mais surtout, ça n'a pas d'effet. À quoi bon? Puisque ça suscite au contraire des réactions. Ah ben toi, tu... Voilà.
Mais parce qu'ils sont corporatistes, avant tout.
Oui, oui. Et puis alors, en général, ils sont adultes, etc. Et donc c'est un peu lointain pour eux. C'est un bon souvenir ou pas. Et du moment que ça tourne pour leurs enfants, tout va bien. C'est un petit peu comme disait l'autre. Chacun fait sa petite soupe sur son petit feu dans son petit coin. C'est une formule du général de Gaulle.
Absolument. Alors, je voudrais rappeler aux auditeurs que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostelan. Le thème de cette émission est le suivant. Hors toute tutelle, l'école doit rester le libre lieu de la transmission du savoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Anne Coffinier, normalienne, normalienne et énarque, fondatrice de la Fondation pour l'école, fondatrice de la Fondation Kairos et présidente de Créer son école. Alors justement, je vais lui poser la question tout à l'heure d'apporter plus de précisions sur ces initiatives et en particulier au bénéfice d'une jeunesse souvent issue de milieux non favorisés, hein, il faut le souligner. Et puis j'ai également le plaisir d'accueillir Jean-René Ladmiral, docteur en philosophie et écrivain, professeur émérite en philosophie et philologie, et lui-même également patron d'émission. Donc voici le thème de cette émission, et ceci en relation avec les débats récents à l'Assemblée nationale, faisant état d'une volonté de l'État de mise sous tutelle de l'enseignement privé, qu'il s'agisse de l'enseignement d'ailleurs sous contrat comme de l'enseignement hors contrat.
Alors sur le
Mais je
contrat,
vais demander peut-être à Anne Coffinier de préciser justement le fait que à la fois le hors contrat comme le sous-contrat.
Alors oui, c'est très important parce que la principale agression contre le sous-contrat a donc été repoussée. Il s'agissait de passer en CDD, entre guillemets, le fameux contrat. J'ai expliqué en quoi c'était un changement complet de conception de la liberté d'enseignement. Donc ça avait pu être repoussé et ça c'était fondamental. Par contre, les attaques contre le hors contrat n'ont pas été repoussées. C'est toujours la même affaire. Quand vous avez une chose absolument horrible, tout le monde se concentre sur cette chose horrible. En l'occurrence, ça, c'était le secret de la confession. Donc, après, il y avait un élément un peu secondaire qui était très grave, qui était la question de CDDiser le contrat. Et il n'y a plus d'énergie politique pour les autres sujets. Et c'est là que ça passe. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a deux sujets qui sont passés sur le hors contrat, bon, qui sont probablement inapplicables. Mais ça, on fait de plus en plus de lois politiques parfaitement inapplicables. Mais ça donne un état d'esprit. Ça crée un état d'esprit différent chez les inspecteurs. Donc, premier sujet, qui est parfaitement aberrant, c'est l'idée que, c'est plus qu'une idée, puisque maintenant c'est une disposition dans l'article 7, ça donne la possibilité aux inspecteurs de fermer un établissement hors contrat immédiatement, sans mise en demeure, dès lors qu'il y a une urgence particulière et que les valeurs de la République seraient en danger. Alors, comme les valeurs de la République, c'est évidemment...
Ce serait intéressant d'ailleurs de déterminer ce que c'est que les valeurs de la République.
Assez vague. Oui. De quoi s'agit-il si on met le grand défilé de tous les grands principes, bon, bah, comment ça peut être vraiment mis en danger dans une école? Qu'est-ce qu'on veut dire? Donc on voit bien que c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Évidemment. Et quand même, l'inspection est soumise au principe du contradictoire. À partir du moment où vous n'avez même plus de mise en demeure, qu'on vous ferme administrativement directement, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit. On n'est plus dans l'état de droit. On arrive, on vous dit ah bah, vous ne nous plaisez pas, paf, on vous ferme. Donc, d'un point de vue constitutionnel, ça paraît hautement surréaliste. Cela dit, vu l'évolution du Conseil constitutionnel ces dernières années, il vaut mieux quand même essayer d'éviter ces dispositions dès le Sénat. Donc j'appelle les sénateurs, s'il y en a qui nous écoutent, à passer un amendement de suppression pour cette disposition qui est insérée au sein de l'article 7, car elle dégrade le droit français et elle est liberticide et n'apporte absolument rien. L'autre élément tout aussi choquant et qui reste plus qui risque plus de demeurer dans le contexte un peu de psychose actuelle, l'autre élément tout à fait embêtant consiste à donner la possibilité aux inspecteurs d'entendre isolément des élèves, hors la présence d'un adulte, hors la présence du directeur ou d'un professeur de l'établissement. Donc on prend à part un élève, qu'il soit volontaire ou bien qu'on ait choisi, et on lui pose des questions théoriquement qui ont un rapport avec la vie de l'établissement. Mais notre pratique à nous depuis 20 ans nous permet de savoir que ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, les inspecteurs posent des questions très largement hors sujet, qui déstabilisent profondément les enfants et qui servent à obtenir des informations qu'ils n'osent pas demander aux adultes. Par exemple, je vous donne un exemple issu de cas tout à fait concret, puisqu'on a les témoignages des écoles inspectées qui nous reviennent après chaque inspection au niveau de l'association Créer son école. Parce que Créer son école, c'est une association qui accompagne les écoles libres, en particulier hors contrat, dans la défense de leurs droits et leur développement. Donc elle les forme, elle les défend, elle les met en valeur, elle les conseille, et notamment fait un accompagnement juridique dans les situations d'inspection. Et donc, dès qu'il y a une inspection, elle nous appelle parfois en direct, et on les conseille pour qu'elles défendent leurs droits. Et après, on rédige avec elles les réponses aux mises en demeure. C'est pour ça que c'est très important qu'on ait ce service juridique très au service de ces écoles. Et donc, l'expérience qu'on a est quand même assez préoccupante. Vous avez par exemple des inspecteurs qui demandent à un enfant de maternelle ce que ses parents votent.
Oui, c'est ahurissant.
Ou un inspecteur qui demande à un enfant de primaire s'il va à la messe tous les jours, est-ce qu'il va à la messe, etc. Ce qui est complètement hors de propos et illégal comme question. Ou des questions beaucoup plus gênantes pour un enfant, savoir si il se masturbe, qu'est-ce qu'on lui raconte à la maison sur la sexualité, comment ça se passe. Des questions, vous voyez, sur l'intimité, puisque maintenant on est très préoccupé de ces histoires d'éducation sexuelle. Et donc ça conduit à des questions qui sont déplacées, choquantes, qui nient la liberté.
Big Brother.
Voilà. Et donc ça, c'est tout à fait problématique, d'autant plus que le guide du contrôle édité par l'État lui-même déconseillait de recourir à des questions aux enfants isolément sans adulte référent. Et on sait en plus, dans le contexte actuel, que la grande norme qui va devenir un peu partout à l'égard des enfants, ça sera de jamais les laisser seuls avec un adulte. Donc c'est un peu compliqué de créer une loi pour expliquer qu'il ne faut jamais laisser un enfant seul avec un adulte et en même temps d'expliquer que l'inspecteur, lui, peut être seul avec l'adulte.
Oui. Bon. Alors j'aimerais peut-être, Anne Coffinier, j'aimerais quand même que vous indiquiez aux auditeurs de Radio Courtoisie comment joindre cette association que vous avez créée, créer son école pour la défense justement des familles qui entendent s'opposer à cette mise sous tutelle de l'enseignement privé.
Merci beaucoup Michel Rostolan. Effectivement, c'est important qu'on nous soutienne. Donc, Créer son école existe depuis 20 ans maintenant.
Oui.
Donc, pour nous contacter, le plus simple, c'est de passer par le site internet.
Oui.
Donc, vous tapez Créer son école, vous trouvez créer-son-école.com. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire, c'est très facile, en passant par le site internet ou nous téléphoner. Vous avez tout sur le site internet pour nous faire part de vos propres expériences, de vos besoins. On aide beaucoup de gens à défendre leurs droits. On peut vous réorienter vers d'autres associations si ce n'est pas exactement notre domaine précis. Et effectivement, il faut défendre le droit des enfants à accéder à une école libre. Et il faut défendre les droits des écoles. Ce ne sont pas des choses aux mains de l'État, même si c'est tout à fait normal que l'État les inspecte. Bien que ça ne soit pas très normal que l'État soit jugé parti. Parce que si vous voulez, n'oublions pas que l'État, c'est un régulateur, mais c'est aussi un opérateur. C'est-à-dire qu'il a son réseau d'écoles. Il a même un réseau omniprésent, puisqu'il scolarise 82% des enfants. Donc c'est cet État qui a son propre réseau qui va inspecter les réseaux concurrents et qui a droit de vie et de mort sur les réseaux concurrents. Voilà une situation quand même assez surprenante d'un point de vue juridique. Donc il serait temps, de mon point de vue, que le législateur édicte des normes en disant voilà ce qu'une école doit faire, voilà comment une inspection doit se passer, voilà quels sont les points qu'il faut vérifier, et qu'ensuite il y ait des auditeurs choisis sur ce cahier des charges qui opèrent ces inspections et en réfèrent à la nation, et non pas à l'éducation nationale qui se retrouve là encore jugée partie. Surtout que, imaginez-vous bien, nous sommes aujourd'hui dans une crise budgétaire et démographique sans précédent sur les deux derniers siècles. Dans un contexte où, de toute manière, il faut fermer des classes et des écoles, chacun va essayer de fermer les classes chez le voisin. Donc, l'école publique va vouloir fermer les classes dans l'enseignement privé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Elle ne va pas commencer à fermer les classes dans son propre réseau. Or, c'est l'éducation nationale qui inspecte les écoles privées et qui va dire s'il faut les fermer ou pas. Mmh. Vous voyez bien que ça ne va pas. Ça ne colle pas. On a un vrai problème démocratique de base.
Délit d'initié.
C'est ça.
Démocratique et démographique.
Les deux.
Nous allons écouter un bobino de Radio Courtoisie.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors, chers amis auditeurs, retenez bien donc ce nom. Créer son école, c'est le nom de l'association que préside Anne Coffinier pour la défense des droits de l'école libre. Qu'il s'agisse de l'école d'ailleurs hors contrat comme sous contrat. En tous les cas, les droits des enfants et les droits des parents contre cette volonté de tutelle par l'État. J'aurais aimé que vous me parliez également de la Fondation Kairos tout à l'heure, si vous le voulez bien, mais je vais peut-être me tourner vers le professeur Jean-René Ladmiral, docteur en philosophie, écrivain, professeur émérite en philosophie et philologie. Alors la philologie, qu'est-ce que c'est que la philologie?
Alors, on en parlera après, je voudrais poser une question précise,
mon cher professeur,
sur le sujet. Pardon?
Vous êtes philologue comme Nietzsche.
Oui, si on veut, oui, philologue, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Et alors, on a trois continents, la masse de l'enseignement public, le sous-contrat et ce qui reste du hors-contrat. Et il y a une autre filière dont on parle très peu qui est
l'école
à la maison. Vous qui avez travaillé l'institution sous ces différents aspects, j'aimerais que vous voulussiez bien nous en dire quelque chose.
Eh ben, très volontiers. En effet, toutes ces formes sont différentes couleurs d'une même réalité. L'école, la liberté d'enseignement, elle peut s'exercer dans un cadre non institutionnel, comme dirait Ivan Illich, celui de l'école à la maison, en quelque sorte, dans un cadre institutionnel plus ou moins libre par rapport à l'État, donc hors contrat, sous contrat, voire public. Et donc, toutes ces dimensions-là sont très importantes à préserver. Pourquoi ? Ne serait-ce que pour les cas d'urgence. Vous avez un enfant malade, vous avez un enfant harcelé, vous êtes dans un territoire où il n'y a pas d'offre scolaire, et ça va arriver de plus en plus souvent. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part l'école à la maison? En plus, aujourd'hui, c'est assez simple parce qu'on a plein de cours en ligne. On peut se connecter à l'université de Cambridge, Stanford, où on veut. Donc, on peut à la fois avoir tous les plaisirs, toutes les ressources de l'enracinement, travailler par exemple avec un artisan local, travailler avec un professeur retraité qui a du temps et qui peut nous éveiller à telle ou telle chose, et en même temps se connecter à ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a à la pointe mondiale. Grâce aux cours, aux webinaires, aux universités du soir, aux universités populaires qui existent dans le monde entier. Donc, quand on pratique l'école à la maison intelligemment, on a beaucoup plus de ressources qu'avant. Il ne faut pas croire qu'on est enfermé, loin de là. Mmh. Et donc, ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, sous prétexte, sous couvert de lutter contre l'islamisme, puis qui est ensuite devenu le séparatisme, le communautarisme, enfin, c'est plus très bien, ou renforcer les valeurs de la République, comme la loi a fini par s'appeler en août 21, eh bien, on s'est retrouvé à interdire l'école à la maison, sauf quelques dérogations soumises à autorisation annuelle. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez un enfant handicapé, donc une autorisation préalable annuelle. Chaque année, il faut tout recommencer.
Alors qu'avant, il y avait un contrôle a posteriori.
Avant, il y avait une déclaration simple et des contrôles quand l'État le voulait, c'est-à-dire pas toutes les années, enfin, assez souvent, mais quand on voyait que ça roulait, c'était un peu moins souvent. Là, il y a des gens dont les enfants ont parfaitement réussi, brillamment parfois, ont passé le bac parfois avec 4-5 ans d'avance, et ils se voient interdits de pratiquer l'école à la maison. Vous avez des professeurs agrégés dans le système public qui ne peuvent pas faire école à leurs propres enfants. Ouais. Donc en fait, on a clairement une volonté, et ça a été reconnu, d'éradication de l'école à la maison. Sous prétexte que ça serait le creuset d'une idéologie anti-républicaine, islamiste, etc., il n'y a jamais eu le moindre chiffre pour prouver que c'est vrai.
Mohamed Merah est un produit de l'école publique.
Oui.
Les assassins sont produits par l'école publique.
La plupart du temps, statistiquement parlant, ils sont produits par l'école qui scolarise le plus d'enfants. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le problème en France, c'est que quand vous avez un problème, vous allez augmenter les contrôles sur un secteur. Mais vous ne voulez pas prendre en compte le fait que les gens qui ne veulent pas respecter la loi, ils ne se déclarent pas. Donc, par exemple, une école hors contrat, vous pouvez la contrôler. Mais ceux qui veulent mésuser de la liberté d'enseignement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font une école clandestine. Ils ne déclarent pas leur école. Donc, en fait, tous ces contrôles que vous entassez sur la tête de gens qui veulent respecter la règle du jeu, eh bien, précisément, ils ne seront pas appliqués aux écoles clandestines.
Et alors, parlez-nous des écoles clandestines.
Alors, par définition, personne n'a le chiffre. Mais moi, je suis allée, par exemple, dans un quartier qui s'appelle le Chêne Pointu, dans le 93, où c'est que des immeubles dans un état au-dessous de tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai visité une école coranine clandestine, absolument rien aux normes, qui était là, et dans un bâtiment qui a un logement social, donc ils doivent quand même savoir à peu près qui sont leurs locataires. Et personne ne fait rien. Donc en fait, aujourd'hui, il y a plein de lieux qui sont soit des lieux de soutien scolaire, des activités culturelles en marge des mosquées, soit des activités sportives, mais qui en fait sont des lieux d'enrégimentement islamiste, qui sont très peu contrôlés parce que le régime de contrôle est très léger sur tout ce secteur-là. Et à côté de ça, vous avez des gens qui font l'école à la maison en toute clandestinité, qui donc ne sont pas contrôlés, sont d'autant moins contrôlés que vous demandez aujourd'hui à un maire quelle est la liste totale des enfants qui habitent sur son territoire. Il ne le sait pas. Il ne sait pas qui habite sur son territoire. Il faut savoir en plus qu'il y a toute une partie de la population, notamment clandestine, qui ne déclare pas les enfants à l'état civil. Donc ces enfants, ils n'existent nulle part. Et ils vont dans des écoles clandestines. Et là, naturellement, il n'y a aucun contrôle. Aucun. Donc d'un côté, c'est un petit peu comme lorsque vous prenez le train à la SNCF et par malchance, votre carte famille nombreuse a expiré d'un jour. Alors là, évidemment, vous prenez une taxe, une amende épouvantable, vous avez le sentiment que vous avez tué père et mère. Mais par contre, si vous êtes monté sans aucun billet et que vous avez le bonheur d'être insolvable, ben, il ne vous arrive rien. Voilà, c'est pareil.
D'appartenir à des groupes qu'on va ménager.
Ou alors, vous êtes un peu musclé et donc on ne peut pas vous contrôler.
Oui, moi je suis très chagriné par cette histoire d'école à la maison.
Moi aussi.
Et parce que c'est en même temps un vivier d'originalité.
Tout à fait.
Et pour les élèves, pour les enseignants. Et alors, sans connaître le problème, comme c'est votre cas, Anne Coffinier, je peux m'imaginer que des innovations ont pu venir de là. Parce que ce qu'on méconnaît, c'est dans un corps social, c'est il y a la reproduction sociale, pour reprendre un terme classique, mais en même temps, la société vit du fait que certains groupes apportent de l'innovation qui est reprise. Et je peux m'imaginer que l'école à la maison est le lieu... un lieu où il y a de l'innovation parce que ça implique d'abord une volonté, un courage. Et aussi, les enseignants donnent beaucoup d'eux-mêmes, puisque en général, ils acceptent, ils en ont parfois les moyens, ils ont parfois des familles un peu nombreuses, mais ils consacrent énormément de temps et de compétences à ce travail qu'ils font et ils sont certainement amenés à faire des découvertes sur la façon d'enseigner et la façon de gérer la singularité des élèves dans un espace libre.
Et puis, il y a aussi un élément, j'ai envie de dire, par l'absurde. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez dans une institution, l'institution essaie de vous normaliser. Elle essaie de vous faire rentrer dans ce qu'elle considère être un cadre. Et c'est le problème même d'institutionnalisation. Et la République tient beaucoup à cette logique de normalisation. Alors, à une époque, c'était la normalisation républicaine. Il s'agissait d'éradiquer des enracinements régionaux, religieux, post-pré-révolutionnaires, donc royalistes, etc. Et donc, c'est pour ça que l'école publique était aussi normative. C'était pour ça. C'était vraiment pour enraciner. Il y avait un but précis.
C'était une école de combat contre l'Église.
Hein. Mais clairement. Et aussi, il faut bien imaginer aussi, il y avait tout le côté revanchard hein, contre la Prusse et puis l'Allemagne. Donc, on avait un objectif très précis. Et c'est pour ça que cet enrégimentement idéologique était voulu par la République. Et l'école publique a été conçue pour enrégimenter. Et c'est pour ça qu'elle est aussi sur-institutionnalisée, quelque part. Et aujourd'hui, elle a gardé cette logique de sur-institutionnalisation, mais avec un contenu presque inversé. C'est-à-dire qu'un contenu qui n'est plus du tout national, ni patriote, un contenu qui n'est plus du tout l'idée de faire corps, de faire unité, mais au contraire de valoriser à l'infini, finalement, les divergences identitaires, quelque sorte. Au lieu de valoriser la nation, on s'est mis à valoriser tout ce qui n'est pas français, ou à peu près. Donc tout ça, c'est complètement inversé. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans le fait de l'école à la maison, c'est précisément qu'on échappe à cette normalisation, on échappe à cette standardisation. Et ça donne des états d'esprit, ça donne des personnalités fortes, ça donne des caractères bien trempés, ça donne des gens qui n'ont pas l'habitude de se normaliser. Et encore une fois, tout à l'heure, je citais Ivan Illich, qui avait écrit « Une société sans école ». Ivan Illich explique comment l'objectif de l'école, avant tout, ce n'est pas tellement de transmettre quelque chose, c'est de transmettre cette forme. De l'enrégimentement. Et c'est vrai. Alors, ça paraît gauchiste de dire ça comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai et il est important qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on vient chercher dans une école. Et si ce qu'on vient chercher ne se trouve pas plus que ça dans une école, il est de bon ton de se demander s'il ne serait pas opportun de le développer dans une autre structure. Ça peut être l'école à la maison, ça peut être des cours à distance, ça peut être ce qu'on veut, mais... Il ne faut pas être, asservi par rapport à cette idée d'école institutionnelle conçue comme une machine idéologique.
Mais il y a une bonne nouvelle à ça. L'école, c'est donc moins la transmission du savoir que la volonté de la construction d'un robot.
Oui, mais je voulais juste dire une chose avant d'oublier, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, parfois, il y a des choses qui sont compliquées à réformer. Mais restaurer le droit à faire l'école à la maison, ça prend un article de loi. Et c'est simple. Et il n'y a pas de coûts, et il n'y a pas de choses à annuler, et rien.
Au contraire, il y a des économies.
Il y a des économies à la clé, il y a du bon sens à la clé, il y a de la liberté à la clé. Donc, j'appelle le prochain gouvernement, quel qu'il soit, à oser faire cet acte en faveur de la liberté qui s'impose.
De revenir à la raison.
Revenir à la raison, bien sûr. Et bien sûr qu'il faut contrôler ce que deviennent ses enfants, c'est évident.
Ça faisait partie de ce retour à la raison.
Mais ça serait de bon ton aussi de savoir ce que deviennent tous les enfants, commune par commune. Et on est loin du compte.
Alors, je dois dire que vous êtes, et je m'en réjouis, écouté par bien des parlementaires, et c'est une... C'est une grande satisfaction. Nous vous sommes très reconnaissants. Et ces parlementaires actuellement qui, justement, becs et ongles, se sont battus pour défendre cet enseignement privé, qu'il s'agisse d'un enseignement hors contrat ou sous contrat.
Mais c'est quand même assez phénoménal quand on considère les choses, comme le disait tout à l'heure Jean-René Ladmiral. Nous avons globalement un système privé qui fonctionne mieux que le système public. Ça n'a pas toujours été le cas. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, c'était le contraire. Hein, l'école publique avait un meilleur niveau que l'école privée.
Oui.
Moi, quand j'ai fait mes études, le privé, c'était pour les enfants qui ne travaillaient pas trop.
Ça dépendait des régions, parce que
l'Ouest de la France connaissait
plus d'écoles catholiques en particulier que d'écoles...
C'est vrai.
Officiel, que d'école.
Et ça reste vrai encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour l'Ouest de la France. Oui. Bon, moi, j'ai été élevée à Manosque, dans le sud-est de la France, et on avait un très bon lycée Félix Esclangon, où il y a beaucoup de gens qui ont fait des bonnes études.
Donc, vous êtes passé par l'école
publique, intégralement.
Intégralement.
Et l'école privée à côté, elle n'était pas bien brillante. C'était pour ceux qui n'arrivaient pas à suivre le rythme à l'école publique. Et Je sais que dans ma génération, c'était largement le cas en province, en tout cas. Largement le cas. En province.
À Paris aussi, de mon
peut-être
temps.
Peut-être à Paris aussi.
Mon frère était dans le public parce qu'il faisait le désordre. Donc, l'école publique ne pouvait pas le garder. Donc,
dans le privé, vous voulez dire.
Oui,
privé.
Dans le privé, parce qu'il était impossible dans les cadres normaux.
Donc ça n'a pas toujours été le cas, je veux dire. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, l'école privée fonctionne mieux que l'école publique. Alors, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais c'est un fait. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit un État qui n'arrive pas à relever le paquebot de l'éducation nationale et s'empresse de couler les auxiliaires, les petites nefs de sauvetage à coup de, je sais pas moi, à coup de bombarde là. Il faut couler tous les bateaux qui essaient de sauver ce qu'on peut sauver à côté de l'école publique qui coule. C'est quand même invraisemblable.
Avec deux raisons. D'une part, l'idéologie égalitaire, les lobbies enseignants, syndicaux pour l'école publique, mais en même temps, comme nous le disions tout à l'heure, en coulant l'école publique, ils restreignent le passage, l'espace où ils peuvent mettre leurs enfants qui, eux, auront des positions de bien meilleures parce qu'ils auront bénéficié d'un vrai enseignement. Alors que là-dessus, par exemple, Claude Meunier-Berthelot a publié plusieurs livres sur la question. Elle est très virulente. Je l'ai invitée deux ou trois fois à mon émission.
Tout à fait.
Elle est très virulente, à juste titre, sur la façon dont il y a une organisation systématique de déséducation, je dirais. Et alors, ces livres sont un peu désordonnés souvent, mais sur le fond, elle a raison. Et donc, il y a non seulement un abandon de l'enseignement public, mais le naufrage est voulu pour des raisons idéologiques qui tiennent à un égalitarisme d'une part et d'autre part au maintien d'un entre-soi pour une minorité.
Il y a les classes
camif, mais pas seulement.
Je reconnais dans vos propos le professeur de philosophie que vous êtes et de philologie. Mais vous n'avez toujours pas expliqué ce qu'est la philologie.
Voudriez-vous que je vous en entretinsse, s'il vous plaît? Voilà. Alors, littéralement, philologie, c'est l'amour du langage. Et effectivement, comme l'a cité Anne Couffinier tout à l'heure, par exemple, Nietzsche dit « wir philologue », nous philologues. Et dans la tradition allemande, c'est les spécialistes des langues anciennes. Et d'ailleurs, il y a un passage formidable dans les considérations inactuelles, c'est le début de la deuxième, où il explique que les philologues sont les vrais philosophes dans la mesure où, connaissant le passé, ils peuvent critiquer le présent et anticiper l'avenir. Mais alors, dans la tradition française, c'est plutôt, l'un n'exclut pas l'autre, l'étude des langues anciennes. La philologie est souvent liée à la culture et à la littérature. La philologie est devenue plutôt une étude diachronique de la langue. Ce qu'on appelle, parce que la linguistique depuis Saussure est devenue qu'on appelle une linguistique synchronique, c'est l'état de la langue telle qu'elle fonctionne, en la décrivant de façon aussi précise que possible, et qui a repris la place des linguistes d'avant qui s'intéressaient au passé des langues indo-européennes. Il se trouve qu'il y a là un vivier de réflexion extraordinaire, puisque nos langues indo-européennes sont des dialectes qui ont une origine commune. Et les gens ont découvert, comme émerveillés, que l'allemand, le français, le russe et même l'iranien, c'est des langues sœurs. Et alors même à une certaine époque...
Et le latin.
Le latin, grec,
les évidemment. Les Allemands, puisque vous connaissez très très bien la langue allemande, eh bien évidemment, l'intérêt de la langue allemande, c'est qu'elle conserve des formes de... des formes qui existaient pour le latin, des formes de conjugaison et surtout de déclinaison.
Oui, alors là, moi j'ai fait trois émissions sur l'allemand, puisque dans mon émission, j'ai une série que j'appelle Langue du monde.
Oui.
J'ai fait l'arabe, c'est inconnu. J'ai eu la chance de faire une émission sur le japonais avec Bruno Gollnisch, qui était éblouissant. Et moi, je me suis dit, je vais faire l'allemand quand même. Et alors, en réalité, l'allemand est un système bizarre parce que. D'abord, c'est une langue germanique dont le système de conjugaison est pauvre. Nous, dans les langues romanes, c'est formidable. Oui. Alors que les germaniques, l'anglais, c'est encore pire. Mais même, par exemple, les déclinaisons qui ont disparu dans la plupart des langues germaniques, qui restent à l'état de bribes en allemand, c'est une déclinaison
de disparition.
Oui, c'est ça. Et alors, du coup, bon, je ne veux pas faire le voici, mais ça veut dire que pour voir comment ça fonctionne, il faut faire l'ensemble du groupe nominal. C'est-à-dire qu'il y a un article, il y a l'adjectif, il y a le nom. Il faut d'abord aller chercher le nom pour savoir si c'est un masculin, un féminin ou un neutre. Ensuite, revenir sur l'article oui. qui donne l'élément. Et puis, si ça ne suffit pas, l'adjectif va venir quelque chose. Oui. Autrement dit, moi, quand je faisais de l'allemand à l'école, je me disais, mais comment ? Je comprends, mais comment je vais faire pour produire ça ? Et alors là, on voit les enfants qui arrivent. Et alors, ce qui est rigolo, c'est ça rejoint le débat sur les méthodes de lecture. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, on enseigne quelque chose d'analytique et puis on produit du synthétique. Et bien là, c'est pareil, j'ai appris les déclinaisons. Puis à un moment, j'ai vu qu'il me sortait de l'allemand, normal, correct. Et alors, pour ça, l'allemand est intéressant plutôt par sa syntaxe. Mm-hmm. C'est la syntaxe qui m'intéresse parce que, encore une fois, la morphologie est plus riche dans les langues romanes pour la conjugaison. Quant aux déclinaisons, il y a des petits restes en voie de liquidation en allemand. Et, bon, le latin, le grec, je ne sais plus dans le grec moderne où on en est, mais le grec moderne, c'est... Voilà. Mais je sais que ma mère, par exemple, elle nous avait mis... Elle voulait faire du latin. Donc, elle a fait faire du latin. Puis, elle savait bien l'allemand, elle a fait l'allemand. Elle s'est dit, oui, mais je ne vais pas les mettre dans... où ils auraient deux langues à déclinaison. Alors, elle nous a fait faire de l'anglais en première langue. Sauf que l'allemand n'est pas une langue à déclinaison. Hein, c'est du moins l'impression. Mais effectivement, le souvenir qu'on a de ce fonctionnement du groupe nominal, qui est complètement, complètement bizarre. Hein. Et alors, bon, dans l'émission que je fais, je le précise à plaisir, si je puis dire, parce que je suis émerveillé de ce désordre qui fonctionne quand même et surtout qu'on arrive à apprendre. Voilà, oui, bon, ceci pour moi. Alors, la philologie, donc, dans la tradition allemande, c'est surtout l'étude. Alors, l'un de mes bons maîtres parlait de l'amour des beaux textes, oui, essentiellement des beaux textes du passé. Et alors qu'en français, c'était devenu un synonyme de la linguistique diachronique, c'est-à-dire une linguistique qui s'occupait du passé de nos langues et de ces familles indo-européennes qui ont fait pendant plus d'un siècle le bonheur de tout un ensemble de chercheurs et d'intellectuels, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux. Mmh. Et c'était tellement merveilleux que certains qui faisaient de la philologie, en ce sens, où ils étudiaient le passé de nos langues germaniques, romanes, etc., et poussaient la réflexion jusqu'à essayer de trouver une origine commune qui aurait été l'hébreu. Ça, c'est le fondement chrétien, judéo-chrétien de notre culture. Et donc, cette idée a été abandonnée. Et on a accepté l'idée d'indo-européen, mais c'est une idée malvenue. Indo-européen, c'est de droite. Actuellement, c'est tout un ensemble de chercheurs, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, contestent l'idée d'indo-européen. Parce que peut-être que c'est un peu racial.
Alors parce que vous êtes un grand spécialiste des traductions également, je voudrais souligner que l'un des éléments forts, c'est qu'en amont de la traduction, il faut savoir déterminer ce qu'on appelle le mot juste. C'était l'objet de ma dernière émission avec Albert Salon, l'ambassadeur Albert Salon, en compagnie de Anne Brassier. Et souvent, maintenant, il n'y a plus la maîtrise de trouver le mot juste, y compris dans l'enseignement, y compris... Et même les journalistes, d'ailleurs. Le mot juste, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, nous allons donner un peu la parole aux auditeurs. Et un auditeur me dit ceci, non, une auditrice, excusez-moi, qui a le joli prénom de Alice. Bonjour, les inspections administratives se font-elles selon une procédure contradictoire comme dans les secteurs de la santé ou du médico-social ? Cette forme se déroule en trois temps. Le rapport d'inspection est envoyé à l'inspecté. Le rapport distingue les points secondaires qui font l'objet de recommandations et les points cruciaux. Des délais de réalisation des modifications sont clairement annoncés. L'inspecté doit répondre dans un délai défini par la loi. Il peut contester les allégations du rapport ou apporter des éléments qui montrent la réalisation des préconisations du rapport. L'administration prend note des réponses et émet des conclusions définitives avec éventuellement des mises en demeure du préfet de département, également sous un délai justifiable, ne pouvant être contesté devant le tribunal administratif.
Ce processus respecte donc autant que possible une certaine justice qui lui confère sa légitimité. Voilà, ça c'est le mot juste. D'autre part, les questionnements d'enfants par les inspecteurs ne devraient-ils pas être obligatoirement enregistrés en vidéo, archivés et documentés dans un rapport détaillé? Ça c'est la première question que je remets à Anne Coffinier, bien évidemment. Et puis la deuxième intervention d'un auditeur, cette fois-ci, et il a ô combien raison, et si on mettait enfin en place le dispositif du chèque scolaire, celui-ci permettrait aux familles de choisir l'établissement qui lui convient sans avoir à passer un contrat avec l'État. Pourquoi n'en parle-t-on jamais? Merci pour l'émission. Salutations à Madame Coffinier.
Eh ben, si je peux réagir aux deux, c'est volontiers. Alors, pour cette auditrice, donc Alice, effectivement, aujourd'hui, ça se passe comme elle l'indique. Et à ceci près que les inspecteurs ne respectent pas toujours tout à fait le jeu. D'abord, lorsqu'il y a une inspection, théoriquement, vous recevez un rapport d'inspection. Eh bien, il faut savoir que dans nombre de cas, les inspecteurs ne l'envoient pas. Et parfois, ils passent directement à la mise en demeure sans nous avoir envoyé le rapport d'inspection, ce qui est quand même assez baroque. Ça, c'est la première chose.
C'est illégal.
C'est illégal, tout à fait, mais n'empêche qu'une fois qu'on vous a fermé, vous pouvez toujours faire valoir que c'était illégal, si vous voulez, c'est un intérêt.
Notre République est de plus en plus habituée à l'illégalité.
Absolument.
Et parfois, on a des situations aberrantes où la presse récupère le rapport d'inspection alors que l'école ne l'a jamais reçu. Donc,
ça, c'est encore plus grave.
C'est encore plus grave. Ça s'est produit. Donc, ça, c'est théoriquement... Effectivement, c'est exactement comme elle le décrit très très justement. Toutes les étapes sont là, sauf que, par exemple, il n'y a pas de délai précis pour les étapes de mise en demeure. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un rapport qui vous dit vous avez une semaine pour faire telle ou telle chose. Vous vous dépêchez, vous envoyez votre papier en expliquant que vous avez pris en compte ou vous contestez tel ou tel point. En général, ce n'est pas lu. Et dans la foulée, vous avez une deuxième mise en demeure avec « vous serez inspecté tel jour ». Et là arrive souvent une autre équipe d'inspecteurs, que c'est la première ou que celle qui aurait pu lire vos réponses, qui découvre tout complètement comme s'ils n'avaient jamais rien vu. Et là, bah, selon la directive qu'ils ont reçue de vous fermer ou pas de vous fermer, eh bien, il se passe des choses qui sont assez déconnectées de la situation qui avait été établie au début et de vos efforts pour y répondre. C'est là que tout ça est largement arbitraire. Bon. Et ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas longtemps, encore jusqu'en 2021, lorsque l'État voulait fermer une école, il devait faire une procédure judiciaire. Et donc, on restait ouvert jusqu'à ce que ça soit tranché. Maintenant, c'est une décision administrative. Donc, on vous ferme. Si vous voulez contester, libre à vous, mais il faut que vous apportiez la charge de la preuve que vous avez le droit d'être ouvert. Ça prend forcément du temps. C'est très rarement jugé en référé. De toute manière, le référé ne préjuge pas du fond. Donc, vous êtes bon pour 3 ans. Et pendant 3 ans, évidemment, vos parents d'élèves ne vont pas attendre gentiment en allant nulle part. Donc, ils vont se scolariser ailleurs. Ce qui veut dire que... Et vous n'avez pas gardé vos locaux vides. Donc, vous rendez les locaux de votre école. Ça veut dire qu'en fait, si jamais vous avez gain de cause 3 ans après, vous n'avez plus d'école, vous n'avez plus parents d'élèves, vous n'avez plus d'élèves. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tuer une école sur une base arbitraire, même si vous savez que le juge vous donnera tort. Ça n'a aucune importance, vous pouvez tuer l'école. Et c'est pour ça que c'est un recul vraiment démocratique important. Mais malheureusement, il ne date pas d'aujourd'hui, il date de 2021. Et donc, tout est une question de rapport de force global. Et si nos élus, si les parents, si les maires ne sont pas bien mobilisés pour défendre les droits des écoles libres et les droits des familles, eh bien, nous aurons de plus en plus de fermetures abusives.
Et des implicites, a priori idéologiques implicites, de certains membres de l'éducation nationale, notamment dans l'inspection.
Il y en a beaucoup, mais de toute manière, souvent, quels sont les motifs pour lesquels une école est fermée? On vous dit, rien ne prouve que le socle commun de compétences, parce qu'en fait, dans les écoles hors contrat, nous ne sommes pas obligés de respecter les programmes annuels, ni les programmes de cycle d'ailleurs, nous sommes obligés de respecter le socle de compétences, de connaissances et de culture. Ce socle définit en gros ce qu'il faut maîtriser à la fin de la période de scolarité obligatoire, c'est-à-dire à 16 ans. Et donc tout ce que nous devons faire dans une école hors contrat, c'est montrer que nous avons une progression, donc un programme, logique, structuré, évalué, bien pensé, de manière à pouvoir légitimement penser qu'à 16 ans, nos élèves auront le niveau qui convient. Et une des manières de prouver qu'on a le niveau, c'est de passer le brevet. Nous ne sommes pas obligés de passer le brevet des collèges, mais nous pouvons le passer. Si nos élèves ont le brevet, c'est qu'ils ont le niveau. Donc, je connais des écoles où les élèves passent le brevet sans aucune espèce de problème, voire largement. Et pour autant, ils ont reçu de la part des inspecteurs une mise en demeure en leur disant « Vous ne respectez pas le socle commun de connaissances ou de culture, c'est trop faible, il faut que vous fassiez les réformes qui s'imposent pour avoir un meilleur niveau. » Alors, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire à ça? Vous avez une école qui, souvent, a un niveau largement au-dessus de l'école publique, qui, en plus, respecte le socle commun et le prouve en réussissant haut la main le brevet. Et vous avez des inspecteurs qui viennent et qui vous trouvent toutes sortes de motifs pour vous dire ben « Non, en fait, vous ne respectez pas le socle commun. » Alors, après, ça vient sur des sujets assez insidieux. Vos méthodes, par exemple, sont trop descendantes, sont trop ex-cathédrales, sont trop à l'ancienne. La capacité de développer le sens critique ou l'oralité ou la spontanéité des élèves n'est pas assez développée. Et donc, vous ne développez pas un certain nombre de choses qui sont prévues par le socle commun. Et donc, on vous ferme.
Voilà. C'est tout simplement l'arbitraire idéologique d'un corps qui est au service de la liquidation de cette concurrence de l'école publique que constituent les différentes variantes, et notamment l'école sous contrat.
Oui, mais ça change complètement d'une académie à l'autre, d'un inspecteur à l'autre. Vous avez des inspecteurs très honnêtes, qui sont plutôt même admiratifs de ce qui se passe dans l'école hors contrat et qui font le travail tranquillement. Vous avez des inspecteurs qui sont à charge, aussi parfois parce que leur recteur leur demande d'être à charge. Et puis après, vous avez des moments qui correspondent à des émotions populaires sur un sujet donné. Donc après, par exemple, la question de Bétarame, tous les inspecteurs étaient comme s'ils allaient découvrir des cadavres dans chaque placard. C'était le climat général. Et donc, au lieu de faire une inspection administrative classique, ils se comportaient comme s'il y avait une commission rogatoire dans le cadre d'une procédure pénale. Ce n'était pas du tout la même logique.
Alors, chers amis auditeurs, vous écoutez le Libre Journal de Michel de Rostolland. Mes invités sont Anne Coffinier, normalienne et énarque, fondatrice de la Fondation pour l'école, fondatrice de la Fondation Kéros, présidente de l'association Créer son école. Et je vous invite, chers auditeurs, à aller consulter Internet pour avoir toutes les références de l'association Créer son école. Et pour, si vous désirez entrer en contact en particulier avec Anne Coffinier, si vous avez des projets éducatifs. Et puis, j'ai également le plaisir d'accueillir Jean-René Ladmiral, docteur en philosophie et écrivain, professeur émérite en philosophie et en philologie, et patron d'émission à Radio Courtoisie. Et mon premier invité en début d'émission fut, comme à l'accoutumée, Jean de La Fontaine, qui nous a offert une très belle fable qui s'intitule « L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin ». J'aimerais, ma chère Anne Coffinier, que vous nous parliez un petit peu de l'association Kéros, la fondation Kéros.
Alors, est-ce que on peut désobéir encore un peu?
Oui.
Il y avait une deuxième question sur le chèque éducation et je pense que c'est important
vous avez tout à fait
de répondre à cette
auditeur. Vous avez tout à fait raison.
Je crois qu'il s'appelle Philippe de mémoire, parce que je le connais. Le chèque éducation, c'est fondamental. Alors, ça avait été mis en avant par Jean-Marie Le Pen, mais aussi par Alain Madelin.
Par Philippe Malot, par différentes personnes.
Par Philippe Malot, par différentes personnes. Bon, c'est une idée qui existe dans le monde entier. Ça n'a rien de spécialement français. C'est une idée de bon sens qui dit que, finalement, on doit pouvoir donner la même somme d'argent à chaque enfant.
Absolument.
Pour qu'il puisse s'inscrire dans l'école qu'il souhaite.
De son choix.
Et donc, l'argent suit l'enfant et non au lieu que l'argent finance une structure donnée. Et je dois dire que ça serait la vraie mesure sociale.
Tout à fait.
Puisque aujourd'hui, les gens qui ont les moyens, ils peuvent choisir leur école.
Bien sûr.
Mais les gens qui ne les ont pas, ils sont bloqués dans une école éventuellement très défaillante et défavorable à leur enfant.
Ouais.
Donc aujourd'hui, qui est-ce qui est sanctionné par cette situation de défaillance large de l'école publique? C'est les classes populaires qui ne peuvent pas payer.
Je pense donc, également à Marie-Joëlle Guillaume qui s'est battue aussi pour cette...
Tout à fait, vous avez raison.
Tout à fait, qui est elle-même jeune agrégée de lettres.
Oui. Donc, cette question de chèque scolaire, alors, quand vous discutez avec des députés, alors, ça leur paraît, oh là là, c'est inatteignable. En quoi c'est inatteignable? En quoi c'est inatteignable? Franchement, je ne vois pas en quoi c'est inatteignable. Alors, certains, même chez les Républicains, disent le moment est venu d'en finir avec le 80-20. Bon, donc, ça veut dire, si on en finit avec le 80-20, ça veut dire qu'on laisse les moyens financiers être affectés, non pas par rapport à la décision souveraine de l'État, mais par rapport aux demandes des familles. Ça revient plus ou moins au chèque éducation. Mais dans le 80-20, on reste quand même sur l'idée qu'on part des écoles privées telles qu'elles existent, on les développe progressivement. Il n'y a pas la même radicalité dans la conception que dans le chèque éducation. En tout cas, dans les deux cas, il est urgent de rendre aux familles le droit de choisir l'école de leur enfant. Je rappelle en plus que la plupart des gens qui mettent leur enfant dans leur école privée paient des impôts.
Tout à fait, ils payent deux fois.
En non, paye deux quatre fois.
Ou quatre fois même.
Alors pourquoi quatre fois? Très important.
Oui, oui, oui.
Ils payent une première fois pour l'école publique.
Oui.
Ils payent une deuxième fois pour l'école sous contrat, par leurs impôts. Ils payent une troisième fois pour les cours de soutien qui sont défiscalisés, Acadomia et compagnie, défiscalisés à 50% sous forme de crédit d'impôt. Et après, ils paient pour leur école à eux, quatre fois.
Ouais. Ouais, oui. Ouais, oui.
Quatre fois sans pouvoir défiscaliser les frais de scolarité des écoles hors contrat. Ils ne peuvent pas. Alors qu'il est évident que c'est un investissement. On devrait pouvoir tous défiscaliser les frais de scolarité dans des écoles qui sont payantes parce que c'est un investissement pour la nation, un investissement dans le capital humain qui en réalité, contribue au bien commun.
Le chèque éducation, ce serait une mesure de justice sociale.
C'est une mesure de justice sociale. Et on y arrivera. Et il ne faut pas baisser les bras, ça devient de plus en plus pertinent.
Il faut relancer nos amis parlementaires sur ce sujet. Moi-même, j'ai défendu ce principe lorsque j'étais au Parlement.
Et peut-être pouvez-vous,
Jean-René Ladmiral, oui,
faire un scénario concrétisant la chose. Parce que c'est l'idée, donc, il est donné aux parents la possibilité de choisir l'école de leurs enfants. Mm. Et alors, le chèque éducation, ça veut dire qu'il y a un capital qui est disponible et qui, est, en fonction du choix des parents, va être attribué à telle ou telle école, c'est ça?
Oui. Voilà. En général, ce qu'on fait en France, ce qu'on pourrait faire en France, et ce qu'on fait dans la plupart des pays, le système pur, si vous voulez, c'est que l'argent va à la famille. Et la famille, comme avec une sorte de chèque ou de carte bancaire.
C'est le système quoi, ça?
Ça, c'est le système idéal. Mais en fait, il n'est pas utilisé parce qu'il y a toujours la possibilité d'une fraude, etc. Donc, on préfère faire un système un peu différent. La famille déclare à l'État ce qu'elle choisit comme établissement. Et l'État envoie l'argent à l'établissement choisi.
Ce qui est mieux parce que... C'est vrai que certaines familles pensaient que l'argent servirait à acheter des tablettes pour les enfants.
Ça peut toujours arriver.
Ce système, mon cher professeur, vous qui êtes un connaisseur de l'Allemagne, c'est le principe de l'argent qui est affecté à la religion en Allemagne, où chaque personne dit, vous allez affecter mon bonus, enfin mon vous allez affecter à telle religion
à
telle religion. Et là, il n'y a pas de fraude possible. Mmh.
Voilà. En fait, vous affectez votre impôt, tout simplement. Oui. D'une certaine manière, lorsqu'on fait des dons défiscalisés, c'est un peu ce qu'on fait. On oriente son impôt, on affecte son impôt à une cause. D'une certaine manière, pas complètement, mais une partie de son impôt, 66-75% de son impôt. Là, c'est un peu la même idée. C'est l'idée de dire, écoutez, la nation doit investir dans l'éducation. Il se trouve que nous avons des droits qui s'appellent la liberté d'enseignement, et nous avons des droits, liberté de conscience, etc. Donc nous voulons exercer nos droits. Pour exercer nos droits, nous voulons choisir l'éducation de nos enfants. Donc nous voulons soit faire l'école à la maison, soit l'école publique, sous contrat, hors contrat, à l'étranger, enfin bon, peu importe ce qu'on veut faire. À partir du moment où on est des adultes responsables, des citoyens à part entière, je ne vois pas pourquoi l'État nous empêcherait d'exercer nos droits, pour autant que nous scolarisons nos enfants dans une forme acceptable. Évidemment, si c'est une école de kamikaze, ce n'est pas possible.
Et encore plus, et d'autant plus, j'insiste bêtement, que ça revient moins cher aux contribuables.
Ça revient nettement moins cher.
Tout à fait.
Et voilà. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de régulation quasiment. Parce que comme l'argent va au système qui marche le mieux, au système que vous plébiscitez, vous n'êtes pas obligé de savoir si vous devez fermer la classe, pas fermer la classe, etc. Vous allez là où les gens veulent aller. Et les gens votent avec leurs pieds, tout simplement. S'il y a une école qui ne leur convient pas, ils s'en vont et du coup, l'école perd les moyens. Voilà.
Alors, ma chère Anne Coffinier, nous arrivons bientôt au terme de l'émission dans 3 minutes. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur la Fondation Kairos?
Oui, alors la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, Institut de France, c'est son nom complet, donc une fondation de l'Institut de France, donc là où il y a les académies françaises, etc., qui est présidée par Xavier Darcos, et dont je suis la fondatrice. Il y a aussi Chantal Delsol, la philosophe, et aussi Cédric Delétrange, qui est un financier, un ancien de Bercy, qui était avec moi à l'ENA. Et donc, dans cette aventure-là, qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous cherchons à renouveler la pensée sur l'éducation pour essayer d'inventer des solutions nouvelles, comme par exemple, nous travaillons beaucoup à la question de la méritocratie actuellement. Nous travaillons aussi pour pouvoir donner des prix, des financements aux écoles hors contrat les plus innovantes. Il y a un prix de la croissance, il y a un prix de la nouvelle école innovante. Et nous faisons aussi un système de bourse sociale, et ça c'est très important pour que tous les enfants, de quelque origine qu'ils soient, en attendant qu'il y ait chaque éducation un jour, puissent choisir l'école hors contrat de leur choix, de la maternelle au supérieur. Voilà ce que nous faisons et vous pouvez découvrir tout ça sur le site qui s'appelle fondationkairoseducation.org. Kairos, c'est K-A-I-R-O-S en grec, donc le moment favorable, le moment de la cristallisation où tout est possible.
Le fameux Kairos.
Voilà.
Alors, mon cher professeur Jean-René L'Admiral, qu'est-ce que vous diriez en conclusion de cette émission avec la charmante Anne Coffinier?
D'abord que moi je suis impressionné par... le savoir, la clarté, la volonté d'Anne Coffinier. Et donc, moi, j'ai un petit peu joué le comparse et j'ai beaucoup appris, et surtout des choses que je savais en partie et que je soupçonnais. Anne Coffinier a fait à chaque fois un discours clair, précis. Et je pense que cette émission est tout à fait essentielle, outre les mérites d'Anne Coffinier, que nous connaissons. Que je connais pour l'avoir écouté dans d'autres contextes, mais c'est très important pour les auditeurs d'être au courant des réalités qui autrement restent dans un flou, hors contrat, sous contrat, etc. Et moi j'étais très content, très admiratif, très reconnaissant à Anne Coffinier d'avoir éclairé ma lanterne et aussi celle de beaucoup de nos auditeurs.
Alors chers amis auditeurs, souvent vous écoutez Anne Coffinier sur CNews le soir, encore il y a deux jours d'ailleurs, et j'espère que, si vous le voulez bien, que les auditeurs de Radio Courtoisie auront également à plusieurs reprises dans l'année qui vient l'occasion de vous entendre. Et en particulier, je rappelle qu'on peut contacter l'association Créer son école dirigée par Anne Coffinier sur Internet. Vous trouverez tous les éléments et les coordonnées. Et oui. Peut-être une façon d'aider également cette...
N'hésitez pas à m'écrire, évidemment à nous soutenir, parce qu'on a de gros chantiers sur les bras. Ce que je voulais dire, peut-être comme mot de la fin, c'est que traditionnellement, on avait un peu le hors-contrat d'un côté, l'école à la maison, puis de l'autre côté, un peu le sous-contrat, le public, et un peu tout contre nous. Les choses ont changé. Et c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'enseignement libre et l'école à la maison d'un côté, contre ceux qui essaient de nous voler nos libertés. Et ça, c'est un changement qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une partie, et notamment je salue le nouveau secrétaire général, mais aussi le nouveau président de la FNOJEC, au niveau de l'enseignement catholique, il y a un désir de s'emparer de nouveau des libertés et de les faire vivre, et de les faire vivre en bonne intelligence avec le hors contrat, et donc main dans la main avec ce que nous essayons de faire. Et ça, je pense que c'est une vraie source d'espérance. Le combat, il est pour l'enseignement libre dans toutes ses dimensions. Il faut garder nos libertés précieuses, indispensable pour que l'esprit français, l'esprit chrétien, l'esprit de culture puisse vivre pleinement.
Et l'esprit des familles à l'école.
Exactement.
Et merci beaucoup Anne Coffinier et merci Monsieur le Professeur. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 4 semaines. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Michel de Rostolan, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 8 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.